Laudetur Jesus Christus.
Le magazine de Radio Vatican. Présenté par Romilda Ferrotto.
Au sommaire, l'Angélus du pape François, le Saint-Père, a évoqué le cas de l'avion malaisien et a salué chaleureusement une initiative contre la traite des femmes. Il a par ailleurs invité les fidèles à lire l'Évangile et à écouter Jésus qui nous parle. Dans ce magazine, nous reparlerons de l'affaire Asia Bibi, nous découvrirons le Collège Pontifical Canadien de Rome et en fin d'émission, entretien avec un dominicain, directeur du Centre Lacordaire et aumônier de l'hôpital psychiatrique de Montpellier. Écouter Jésus et avoir toujours un exemplaire de l'Évangile dans sa poche, telles sont les recommandations que le pape François a livrées ce dimanche à midi aux dizaines de milliers de fidèles venus participer à l'Angélus. Il y avait des pèlerins venus de toute l'Italie sur la place Saint-Pierre, mais aussi d'Espagne, d'Allemagne, de Suède, du Canada et même du Kurdistan. Avant la prière, le Saint-Père a commenté l'Évangile de la Transfiguration, deuxième étape de l'itinéraire de Carême après les tentations dans le désert. Marie Duhamel.
Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Pour le pape François, cette phrase de l'Évangile est fondamentale. Il demande donc aux catholiques de l'avoir bien en tête. Les disciples du Christ sont en effet appelés à écouter sa voix, à prendre ses paroles au sérieux et à le suivre comme les foules de l'Évangile en Palestine. Jésus, en effet, n'avait pas de chair fixe. C'était un maître itinérant qui proposait ses enseignements sur les routes, parcourant des trajets parfois imprévisibles et difficiles. Dialoguant avec la foule comme il aime le faire, l'évêque de Rome a demandé aux fidèles s'ils avaient un petit évangile dans leur poche pour pouvoir en lire un passage à n'importe quel moment de la journée. Lisez-vous tous les jours un passage de l'Évangile? Je vois que la réponse est moitié-moitié, a constaté le pape François, exhortant les fidèles à le lire tous les jours.
Da questo episodio della Transfigurazione.
Pour le souverain pontife, le récit de la Transfiguration suggère par ailleurs l'idée de deux mouvements complémentaires, la montée et la descente. D'un côté, il faut monter sur la montagne, se mettre à l'écart pour se retrouver soi-même et mieux entendre la voix de Dieu. Mais on ne peut pas rester là-haut, il faut redescendre dans la plaine où nos frères portent le fardeau de leur peine, des maladies, des injustices, de l'ignorance, des pauvretés matérielles et spirituelles. Nous devons partager avec eux le trésor de la grâce. Pour faire grandir la parole de Dieu en nous, il faut paradoxalement la donner aux autres, la proclamer. C'est une mission qui vaut pour toute l'Église, à commencer par les évêques et les prêtres qui sont appelés à se plonger dans les besoins du peuple de Dieu, à s'approcher avec tendresse des plus faibles et des laissés pour compte.
Après la prière de l'Angélus, le pape François a rendu un hommage appuyé à la communauté pape Jean XXIII qui organise vendredi soir un chemin de croix dans les rues de Rome en faveur des femmes victimes de la traite. Puis il a invité les fidèles à se souvenir dans leur prière des passagers et de l'équipage du Boeing malaisien qui s'est évanoui des écrans radar civils le 8 mars, ainsi que de leurs familles. Il a alors observé un long temps de silence avant d'ajouter « Nous sommes proches d'eux dans ce moment difficile ». Et à propos de la traite catholique, anglicans et musulmans ont décidé de s'unir pour déraciner la traite des êtres humains avec le plein appui du pape François, de l'archevêque de Cantorbéry et de l'imam de l'université égyptienne d'Al-Azhar, la plus haute autorité de l'islam sunnite. Un accord interreligieux intitulé « Réseau mondial pour la liberté » sera signé ce lundi au Vatican. Destiné à lutter conjointement contre les formes modernes d'esclavage et le trafic des personnes, il a été négocié en collaboration avec une fondation privée. Il sera présenté aux journalistes ce lundi matin dans la salle de presse du Saint-Siège. Jugement en appel pour Asia Bibi, cette femme chrétienne pakistanaise, mère de 5 enfants, arrêtée en 2009 pour blasphème et condamnée en 2010 à la peine capitale par un tribunal de première instance. Ouvrière agricole, elle avait, semble-t-il, fait référence à Mahomet lors d'une altercation avec des femmes de son village qui lui reprochaient de polluer l'eau d'un puits en tant que chrétienne. Adoptée en 1986, la loi sur le blasphème est souvent invoquée pour régler des comptes personnels au Pakistan. Une audience est donc prévue ce lundi devant la haute cour de Lahore. Elle aurait dû avoir lieu le mois dernier, mais elle a été reportée. Asia Bibi, qui s'est toujours déclarée innocente et qui est incarcérée dans des conditions déplorables dans le Punjab, ne comparaîtra pas pour des motifs de sécurité. Sa défense sera assurée par un avocat chrétien, Naeem Shakir, personnalité bien connue pour son engagement en faveur des droits de l'homme. Il se dit confiant. Très médiatisée au Pakistan et dans le reste du monde, l'affaire Asia Bibi a provoqué une polémique concernant la la loi sur le blasphème et suscité de vives tensions entre les islamistes et les autorités. En 2011, le ministre fédéral des minorités religieuses, Shabazz Bhatti, de confession catholique, qui avait soutenu Asia Bibi et avait appelé à un amendement de la loi sur le blasphème, a été assassiné par des hommes se revendiquant d'une mouvance islamiste. Le Collège pontifical canadien à Rome a fêté ses 125 ans. Il a été fondé en 1888 par les Sulpiciens. Aujourd'hui, il accueille une vingtaine de prêtres étudiants. L'année jubilaire est marquée par des célébrations, concerts ou encore des conférences. John Zucchi, professeur d'histoire à l'Université canadienne McGill, lui a même consacré un livre historique, Le Collège pontifical canadien, une longue tradition, 125 ans d'histoire. Il revient sur les découvertes qui l'ont marqué pendant ses recherches.
Le cardinal Gouillon, Paul Gouillon, de France. En 1938, il était au séminaire français. Il a dû quitter le séminaire français. Il ne savait pas quoi faire, où aller. Et un prêtre lui a suggéré d'aller au Collège canadien. Et il a passé son dernière année à Rome, donc, au Collège canadien. Et dans ses mémoires, il a écrit « C'était mon salut ». Et donc, on a vu une petite contribution de l'Église du Canada à l'Église de France, ainsi. Mais une chose qui m'a frappé beaucoup dans la recherche, c'était le lien intime qu'il y avait entre le Collège et les papes. Léon XIII, par exemple, avait reçu comme don le Collège canadien en 1888. C'était comme cadeau pour son 50e anniversaire d'ordination au sacerdoce. Il a eu aussi des liens très intimes avec Pie XI. Par exemple, il a reçu en audience les prêtres du collège une semaine avant sa mort. Il savait qu'il allait mourir. Il a dit à la fin que je ne peux pas dire vraiment au revoir parce que je pense que c'est la dernière fois que je vous vois. Et en 1963, aussi pour le 75e anniversaire du collège, le pape Paul VI est venu au collège pour son amitié.
Selon vous, que sont les contributions plus importantes du collège à l'Église du Canada et l'Église universelle?
Je pense avant tout le fait que le collège a été construit était un grand fait pour le Canada. Parce que le Canada était vraiment un pays assez petit, disons, comme population en 1888. Quand le collège a été bâti, il n'y avait même pas 3 millions de catholiques. Et le fait que le collège ait construit était vraiment un grand signe du désir de l'Église du Canada de rester près au Saint-Père et près à Rome. Je pense que la grande contribution disons, du collège canadien à l'Église du Canada, et je dirais à l'Église universelle, c'était de donner cette possibilité aux prêtres qui voulaient faire leurs autres études à Rome, de voir une communauté à Rome, c'est-à-dire au centre du catholicisme, et ça a aidé notre Église au Canada à rester liée au cœur du catholicisme et à l'Église universelle.
L'historien canadien John Zucchi, interrogé par Laura Hirassi du service anglophone de Radio Vatican. Jusqu'au 30 mars, 40 partenaires du CCFD Terre solidaire sont en France pour témoigner de leur action en faveur du développement de leur pays. Une campagne de sensibilisation invite chacun à les soutenir financièrement les 5 et 6 avril prochains lors de la collecte nationale de l'ONG de solidarité internationale. Garantir la sécurité alimentaire et relancer la pêche artisanale en Afrique de l'Ouest, soutenir les petits agriculteurs de la grande banlieue de Rio de Janeiro, lutter en Inde contre l'accaparement des terres agricoles par des investisseurs privés au détriment des populations locales, réhabiliter les oasis en Afrique du Nord et encourager le tourisme solidaire au niveau euro-méditerranéen, autant de causes qui seront abordées. Actuellement, une personne sur 7 souffre de la faim dans le monde. Le CCFD Terre Solidaire soutient financièrement des projets concrets. Toujours en France, la décision fait polémique. Selon le quotidien La Croix, la conférence des évêques a décidé d'annuler une formation donnée par la philosophe Fabienne Brugère. Le conseil famille et société, présidé par Mgr Jean-Luc Brunin, devait organiser le 19 mars une conférence sur le thème « Prendre soin de l'autre », un appel lancé à tous. Plusieurs évêques français ont reçu des courriers de plainte, signalant la proximité entre la pensée de Fabienne Brugère et celle d'une des grandes théoriciennes de la théorie du genre. Devant cette levée de boucliers, juillet, Mgr Brunin a préféré jouer l'apaisement et éviter l'affrontement. Maintenir l'intervention aurait, selon lui, abouti à une crispation qui aurait menacé la communion ecclésiale. Tous les chrétiens ne sont pas mûrs pour s'engager dans une éthique de la rencontre et du dialogue, telle que le pape François nous le recommande pourtant, a-t-il expliqué sur le site du journal La Croix. Mais sa décision ne fait pas l'unanimité, y compris au sein de l'épiscopat. Une deuxième partie de notre émission, l'invité de ce dimanche est un dominicain, le frère Rémi Bergeret. Il est actuellement prieur de la communauté de Montpellier et avant d'être frère prêcheur, il a été ingénieur des mines. Il a par ailleurs obtenu une thèse de doctorat sur les rapports science-théologie dans l'enseignement de Jean-Paul II. Interrogé par Catherine Aubin, il nous partage les moments importants de son parcours.
Frère Rémi Bergeret, vous êtes dominicain et pas seulement un jeune dominicain, un dominicain qui a de l'expérience, qui a eu de nombreuses responsabilités, mais dans votre parcours, il y a eu à un moment donné une rupture. Vous avez fait, je crois, une dépression.
Oui, c'était, on peut dire, une rupture importante puisqu'elle est intervenue, j'avais 35 ans, donc j'étais au début de mon ministère actif puisque j'ai fini mes études en 87. C'était, d'une certaine manière, un petit peu comme une cisaille et ça m'a immobilisé, alors au plan des effets concrets, ça m'a immobilisé 2 années entières.
Comment est venue cette...
90-91. Oh, c'est très simple. Il y a eu plusieurs facteurs que j'ai pu réanalyser parce que j'ai eu un bon psychiatre à Toulouse qui m'a littéralement sauvé, étant entendu l'unique salut par le Christ, bien sûr. Non, il y a eu plusieurs choses. Il y a eu une responsabilité que j'ai eue sans doute trop jeune dans l'ordre, à 33 ans, et qui a été finalement assez lourde à porter. J'étais assistant du provincial, mais avec des décisions concernant des personnes qui vous en veulent, qui vous font la gueule pendant des années, suite à des décisions prises. J'ai eu un ministère assez difficile à l'époque sur Marseille, dans un campus assez éloigné, et c'était le premier ministère, disons, premier apostolat. Un climat communautaire pas très facile, mais ça n'était pas spécifique, particulier à Marseille. Hein. Toute communauté a ses difficultés, nous étions assez peu, nous étions 8-9. Et puis enfin, les soucis familiaux, puisque mon premier neveu, qui avait 3 ans, a fait une méningite heureusement virale et pas infectieuse. Enfin, j'ai eu plusieurs fois ma sœur cadette au téléphone en pleurs. Alors, il y a eu tout cet amalgame, et sur le coup, on ne s'en rend pas compte du tout. Hein. C'est comme, j'aime bien la comparaison, c'est comme quand le sommeil vient en voiture. Il faut s'arrêter tout de suite, et surtout ne pas lutter et croire que ça va passer. Si on a une fatigue, surtout quand on sent, et là on le voit bien au niveau d'une dépression, c'est pas uniquement un blues de fatigue momentané qui passe avec un week-end de repos, c'est quelque chose qui s'installe. Et plus on attend, et plus ça empire. Donc il faut aller voir tout de suite au moins un médecin généraliste, son médecin généraliste, qui vous orientera sur un psychiatre si c'est nécessaire. Mais je peux dire que pendant 2 années, c'était très, très coûteux, parce que pendant 2 années, 90-91, j'ai eu comme la volonté paralysée. Aucune envie, y compris de se lever, de faire la moindre chose. 2 années, vides.
Aujourd'hui, quand vous revoyez cette expérience, qu'est-ce qu'elle vous a donné?
L'enseignement le plus clair, c'est la conscience de ses limites, de sa finitude existentielle, comme on dirait en philosophie. Un autre rapport aussi aux gens, un autre rapport au temps, parce que je n'ai pas fait, comme on dit pudiquement, de TS, de tentative de suicide, je ne suis pas passé très loin. Et donc, quand on a des idées suicidaires, y a beaucoup de choses qui se passent dans la tête, dans le cœur. Grâce à Dieu, j'y ai échappé. Mais on ne pense plus du tout pareil.
Un autre rapport aussi à vous-même, j'imagine.
Ah, bien sûr. Alors, l'autre rapport, moi-même, il est passé, c'est un peu plus cruel, il est passé par une modification du corps. Parce que les médicaments, quels que soient les médicaments, c'est pas la peine que je les nomme, font prendre du poids. Donc ça a joué sur le fait, c'est plus fatigant à gérer, pas au sens du complexe. Ça, j'ai jamais eu de complexe, ça m'a pas empêché de me baigner avec des étudiants à l'île de la Réunion.
Est-ce qu'après une dépression, comme vous l'avez vécu, est-ce qu'il y a une forme de sagesse qui s'inscrit et qui s'installe justement dans ce rapport avec le monde, avec le temps, avec ses frères, avec soi-même?
Oui, sans doute, parce que, je suis moins précipité dans mes actions. Je suis, comme je dis, j'ai peut-être, ça joue sur le mental, la masse joue sur le mental, une certaine inertie. Et au fur et à mesure où j'avance, c'est sûr que j'ai beaucoup parlé dans ma vie dominicaine. Bon, je continue à prêcher, à enseigner, mais au final, ça s'épure, quoi. J'ai presque de moins en moins envie de parler. Et pourtant, je suis à table ouverte, Radio Vatican, c'est le comble. Mais j'écoute beaucoup. Je crois que j'écoute beaucoup, beaucoup plus. Et il se trouve qu'en ce moment, j'ai un ministère d'écoute comme aumônier en hôpital psychiatrique, ça c'est clair.
Alors, frère Rémy Bergeret, c'est ça qui est magnifique quand on voit votre parcours. Vous avez eu cette grande épreuve à l'âge de 33 ans. Vous avez aujourd'hui 59 ans. Mais dans tout cet espace de temps, les responsabilités n'ont pas manqué. Et surtout aussi, vous avez fait cette thèse de doctorat sur le rapport entre foi et science dans l'enseignement de Jean-Paul II. Pourquoi ce sujet ?
Alors, c'est sûr que je n'ai pas été du tout freiné. Mais j'ai pas été. La maladie, dès que j'en suis sorti, heureusement, avec les prières des frères et ce médecin et beaucoup d'autres choses, beaucoup d'autres grâces, d'abord, je m'en suis bien sorti parce que aussi mes supérieurs m'ont fait confiance. Donc, j'ai pu reprendre très vite en 92 l'aumônerie des grandes écoles. Et j'avais été aumônier à Marseille des étudiants scientifiques. Donc, il y avait tout un terrain où j'avais parlé beaucoup à des gens d'origine scientifique. Et puis, en 92-93, j'ai repris le travail d'une thèse de doctorat parce que j'avais fait un DEA à Strasbourg sur l'affaire Galilée. Et donc, ce travail ouvrait normalement sur une thèse. Entre-temps, j'ai été envoyé à Marseille, mais je l'ai repris pour 7 ans, pour essayer, non pas dans une perspective d'enseignement, mais pour essayer de faire une synthèse entre ma formation scientifique initiale, Bac plus 5 avec des maths à haute dose, et puis ma formation théologique. Donc c'est le même bonhomme aujourd'hui encore qui croit, qui raisonne, qui réfléchit. Je reste un rationaliste invétéré, hein, et qui célèbre et qui fait de la théologie, et c'est le même bonhomme, quoi, il n'y a rien à faire.
Et vous faites aussi partie de l'académie. De quelle académie faites-vous partie?
Alors ça, c'est tout à fait récent. J'ai été élu, c'est le comble, récemment, donc à Montpellier, à l'Académie des sciences et lettres de Montpellier. Pourquoi ils sont venus et des lettres au départ. Donc, j'ai bien objecté que j'étais scientifique, tout ça, mais ils voulaient un ecclésiastique. Et puis, il se trouve que j'avais labouré depuis 5 ans et demi pas mal de terrains extrêmement variés à Montpellier. Et donc, à travers le centre Lacordaire, à travers la charge de prieur aussi, sans doute, j'étais un peu connu, quoi, sur Montpellier.
Rémy Bergeret, quand vous regardez votre parcours, est-ce qu'il y a une parole de Dieu qui est un petit peu la flèche, le fil rouge de ces 30 ans dans la vie dominicaine?
Ah, il y en a plusieurs, sûrement plusieurs. Mais disons qu'il y a un événement fondamental, c'est l'incarnation. Le Verbe s'est fait chair, il habitait parmi nous. Donc pour moi, le premier mystère joyeux du rosaire, c'est l'Annonciation, c'est le cœur, c'est à la limite tout ce que j'ai retenu de la théologie. Est-ce que je prêche à longueur de temps? Et le corollaire, Dieu est amour. Faire connaître aux gens les plus éloignés que Dieu est amour.
2015 sera l'année de la vie consacrée.
Oui.
Vous êtes dominicain, vous êtes religieux. Qu'est-ce que vous attendez?
Alors, qu'est-ce que j'attends? Le problème, c'est que ça va provoquer un certain strabisme chez nous dominicains, parce qu'on est en plein dans le jubilé, la préparation du jubilé des 800 ans de l'ordre. Hein. Donc on va le vivre, bien sûr, surtout dans la province de Toulouse, 1215, c'est l'accent qui est mis sur Fangeau et Prouille et Toulouse, la première communauté à Toulouse. L'ordre entier, ça sera plus 2016. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que ce soit un religieux devenu pape qui nous propose cette année de la vie consacrée. Oui, j'attends sûrement un sursaut, un enthousiasme, pourquoi pas une euphorie. Je ne raisonne pas en pléthore de vocations à la clé, hein, ça c'est un détail technique, hein. Mais oui, je trouve ça bien. Si j'écoute beaucoup plus, c'est que je suis dans une charge de supérieur où j'ai beaucoup appris sur l'humanité et beaucoup appris sur l'écoute et la complexité des psychismes humains et des relations humaines.
Et que c'est toujours
Enrichissant,
en germe, mais jamais finalement...
Jamais...
Fermé.
Fermé, non, jamais fermé.
Et c'est sur cet entretien que s'achève notre émission. Merci de l'avoir suivi. Je vous invite à nous retrouver également sur internet radiovaticana.va ainsi que sur Facebook Radio Vatican en français. Bonne semaine à tous.